Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Vous l'avez entendu dans les journaux, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, est devenu le nouveau chef du parti de droite Les Républicains avec 74,6% des voix. Et pour tenter de comprendre ce qui se passe à droite, nous sommes en compagnie de Frédéric Rouvillois. Bonjour, vous êtes écrivain, juriste, professeur de droit constitutionnel. Et si je vous ai invité, c'est parce que vous êtes l'un des co-auteurs du dictionnaire du conservatisme publié aux éditions du CERF, qui vient d'être publié. C'est une somme et il y a un lien, peut-être, vous allez nous le dire en tout cas, entre l'élection de Laurent Wauquiez et le retour du conservatisme à droite. Tout d'abord, votre analyse autour de cette élection, Frédéric Rouvillois.
Alors Guillaume, je crois qu'effectivement, ce qui frappe dans ces résultats, c'est le caractère extrêmement massif finalement de cette victoire. 64% pour Wauquiez. Si on additionne les environ 16% de Florence Portelli, qui était elle-même une filloniste, ça fait que il ne reste plus finalement pour l'aile gauche, entre guillemets, ou jupéiste si vous voulez, des Républicains incarnés par Manuel Le Calon, que 9,25%, donc quelque chose d'absolument dérisoire. C'est cette massivité, je crois, qui est en soi quelque chose de très intéressant et qui me semble effectivement confirmer ce que nous indiquions dans l'introduction de notre dictionnaire du conservatisme, c'est-à-dire que le conservatisme est à la mode, le conservatisme est de retour, et au fond, à droite, il apparaît de plus en plus, conformément d'ailleurs à la formule du président de la République affirmant qu'il n'avait plus au fond que d'un côté les progressistes, lui, et d'autre côté les conservateurs, il apparaît effectivement comme l'un des moyens de décrypter cette réalité qui est en train de se faire.
Mais vous diriez qu'il n'existe qu'une forme de conservatisme, Frédéric Rouvillois ?
Alors, il y a une infinité de conservatisme, de même qu'à la rigueur, on pourrait dire qu'il y a une infinité de libéralisme ou de progressisme. Pour le conservatisme, les choses sont absolument claires, et de fait, il y a des conservatismes qui ne se ressemblent pas dans le monde entier. Il y a un conservatisme en Inde, actuellement, qui a le vent en poupe, mais qui ressemble évidemment pas au conservatisme britannique, ni au conservatisme américain, ni forcément au conservatisme français. Conservatisme français qui a lui-même une histoire et une culture, au fond, assez étrange. Marqué par le rapport complexe à la Révolution française, à la notion de République.
Si vous deviez essayer d'analyser le conservatisme de Laurent Wauquiez, alors il cite souvent par exemple Simone Veil, la philosophe, bien sûr. Il fait partie également des gens qui se réfèrent à Houellebecq. Il dit par exemple qu'il a de la tendresse pour Houellebecq. Où est-ce qu'on pourrait situer Laurent Wauquiez sur une carte du conservatisme aujourd'hui ?
Alors écoutez, si on s'en tient en tout cas à ce qu'il dit, à ce qu'il a répété fréquemment, à ce qu'il a redit d'ailleurs par exemple dans une interview assez fascinante qu'il donne au magazine Causeur dans le dernier numéro, où il explique qu'effectivement au président de la République il faut une bonne droite, ce qui est assez drôle. Et si on écoute par exemple donc ce qu'il a affirmé dans son discours d'après victoire hier soir à 20h30, les valeurs qui sont les siennes, et au fond, la question du conservatisme, c'est d'abord une question de valeurs, les valeurs que l'on veut conserver. Mmh. Il nous parle de la transmission, il nous parle des libertés, du travail, de l'amour de la France, de l'autorité, de la nation. Voilà, on est tout à fait, si on rajoute à ça ce qu'il a pu dire sur d'autres plans, par exemple son relatif euroscepticisme qui contraste à la fois avec ses engagements initiaux et avec ceux du président Macron, on est effectivement assez clairement dans une configuration conservatrice assez classique, clairement ancrée à droite, et qui d'ailleurs, je dirais, même si certains vont peut-être hurler, mais confirme qu'au fond le conservatisme est à beaucoup d'égards un héritier du gaullisme. Et que le gaullisme était en réalité une forme de conservatisme, même si effectivement le général de Gaulle, par prudence politique et par habileté, évitait effectivement de prononcer ce mot conservateur ou conservatisme qui en France a très longtemps été totalement tabou.
Le lien avec la France, pays chrétien, qu'en faites-vous dans cette construction donc d'un conservatisme à la française ?
Si vous voulez, l'une des idées phares du conservatisme, c'est la thématique de la continuité des racines de l'enracinement, d'où effectivement parmi les grands auteurs, hein, du, les grands ancêtres du conservatisme, par exemple, la référence à Barrès, hein, qui est évidemment le grand écrivain romancier français du début du XXe siècle, à laquelle le général de Gaulle d'ailleurs se référait fréquemment, et qui peut apparaître à beaucoup d'égards comme à l'arrière-plan au fond de, des positions de Laurent Wauquiez.
Justement, si vous deviez présenter Barrès aujourd'hui et si vous deviez voir dans quelle mesure les préoccupations de Barrès se relient à celles qu'on peut avoir aujourd'hui.
Bah, les préoccupations de Barrès, c'est au fond de constater que la France en coupant ses racines est devenu ce qu'on appelait à l'époque l'homme malade de l'Europe, et que par conséquent il faut retrouver cela si on veut lui rendre sa stature à la fois nationale, son identité, hein, sa dimension nationale et internationale. Et de ce point de vue-là, donc je reviens à ce que vous disiez à propos des dimensions chrétiennes de la France, c'est la thématique de l'enracinement, c'est la thématique de l'identité, c'est la thématique de la continuité qui est effectivement très présente dans le discours de Laurent Wauquiez.
Alors, on estime qu'il y a une trace de Patrick Buisson, qui a été donc le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui apparemment n'a pas été directement aux manettes. En tout cas, lui ne le dit pas. Vous faites la moue. Vous pensez qu'il a été plus présent qu'il ne le dit, qu'il est modeste dans cette élection?
Non. Enfin, il y a eu des. Enfin, voilà. Il n'a pas été aux manettes dans cette élection-là, mais il est évident que une bonne partie de la du positionnement politique de Laurent Wauquiez doit beaucoup, sinon directement à Patrick Buisson, du moins par exemple à la lecture de son extraordinaire ouvrage. Hein,
l'ouvrage de Patrick Buisson,
La cause du peuple, qui est très clairement une sorte de nos jours de bible du conservatisme français.
Hein. Mais alors justement, parce que Patrick Buisson, lui, il est plus maurassien que barrésien, et Maurras, c'est une référence qui est très encombrante, tout simplement parce que Maurras est antisémite, Maurras a inspiré la révolution nationale de Vichy.
Alors, Maurras n'est pas plus antisémite du tout que Barrès. Hein. C'est un antisémitisme qui, dans les deux cas, est un antisémitisme très largement de circonstances liées à l'affaire Dreyfus et liées au fait que, on va dire, la gauche et la République sont effectivement, apparaissent liées aux côtés Dreyfusards. Donc voilà, on peut très bien effectivement faire du barrésisme ou du maurrassisme sans référence à l'antisémitisme. Le barrésisme comme le général de Gaulle et le maurrassisme comme de Gaulle et Buisson, si vous voulez. Donc les choses ne sont pas... Mais, quant au fait que Maurras soit encombrant encore, ça c'est évident. Ceci dit, Maurras et Barrès participent effectivement de cette grande nébuleuse conservatrice que nous étudions dans notre dictionnaire.
Mais vous pensez vraiment que Laurent Wauquiez pense à Barrès, pense à Maurras? C'est un homme jeune.
Oui, mais bien sûr. Alors, tout d'abord, attendez, c'est un homme jeune, mais c'est un homme qui est excessivement cultivé, qui est normalien, agrégé d'histoire, et qui d'ailleurs fréquemment se disent, en tout cas ses proches, se conçoit plus au fond comme un historien que comme un ancien du Conseil d'État ou comme un homme politique. Donc de ce point de vue-là, il connaît évidemment ces choses-là. Maintenant, de savoir si Maurras et Barrès ou Edmund Burke ou
Disraeli... Edmund Burke, là aussi il faut le présenter, donc là cette fois-ci un théoricien de la contre-révolution.
Oui, ou du moins, sinon un théoricien de la contre-révolution, du moins un théoricien qui parce qu'il est plutôt libéral initialement.
Par libéralisme, hein, donc
il refuse la Révolution française au nom effectivement d'une certaine conception des libertés qui, à ses yeux, sont très gravement mises en péril par la Révolution française, par ce qui est en train de se construire et de se détruire. Et de ce point de vue-là, alors voilà, je vous dis, il est clair que je pense que tous les matins, en se rasant, Laurent Wauquiez ne pense probablement pas à Charles Maurras, à Maurice Barrès ou à Edmund Burke. Mais la culture qui est la sienne, cette culture conservatrice, s'ancre finalement dans cette grande réflexion, cette grande pensée philosophique qui est qu'il a en commun avec eux.
Mais alors, ce qu'il y a d'embêtant, finalement, dans cette pensée-là, je veux dire, au travers de sa cohérence politique actuelle, c'est que vous citez Barrès, Maurras, Burke et libéral. Mais pour le reste, chez Wauquiez, il y a d'un côté une dimension conservatrice, de l'autre, un programme économique qui s'affiche pleinement libéral. Et alors, il faut quand même rappeler que Maurras et Barrès avaient un point commun. Est-ce qu'ils avaient, une détestation absolue du capitalisme? Comment faites-vous pour rendre cohérente une pensée qui va essayer de rassembler ces deux termes-là, Frédéric Rouvinois?
Écoutez, l'avantage du conservatisme, de ce point de vue-là, c'est que c'est une pensée relativement floue et nébuleuse. C'est ainsi qu'on le présente justement dans ce dictionnaire. C'est pour ça qu'on avait adopté la forme du dictionnaire qui permet d'éviter, au fond, de tracer une épure trop claire qui ne correspondrait pas à cette réalité. C'est une nébuleuse qui réunit effectivement d'un côté des éléments du libéralisme, d'autre côté des éléments d'une pensée réactionnaire, d'un côté des gens qui sont effectivement tout à fait compatibles avec une approche capitaliste plus ou moins décomplexée, mais je dis bien plus ou moins, hein, parce que voilà, on n'est pas malgré tout dans un ultralibéralisme tous azimuts, et d'autres qui sont plus méfiants à l'égard des puissances de l'argent. Et donc, voilà, au fond, ce conservatisme qui a manifestement été à l'arrière-plan de la victoire massive du tsunami Wauquiez avant-hier et hier soir, eh ben, elle participe, je pense, de cette culture nébuleuse du conservatisme qui peut rassembler des gens au fond de sensibilités relativement différentes.
Est-ce une rupture avec la droite orléaniste, c'est-à-dire la droite type Valéry Giscard d'Estaing, qui, elle, était une droite proche des milieux d'affaires? Est-ce que vous pensez que c'est cela que va essayer de faire Laurent Wauquiez?
La question est de savoir un petit peu si la droite giscardienne était vraiment, vraiment orléaniste, et d'ailleurs si elle-même était de droite. Il me semble qu'effectivement, on parle beaucoup de Pompidou, si vous voulez, dans la nébuleuse conservatrice comme étant un modèle possible. Pompidou et De Gaulle. Donc voilà, c'est peut-être effectivement un retour, par-delà le giscardisme, un retour au basique du gaullisme, et d'ailleurs, au fond, ce parti des Républicains, nouvelle formule, il ressemble pas mal finalement à ce qu'ont été les différentes incarnations du parti du mouvement gaulliste depuis 58.
Emmanuel Macron a souvent coutume de dire, Frédéric Rouvillois, qu'il y a une partie de la gauche qui est une gauche conservatrice. Finalement, en quoi la droite de Laurent Wauquiez se distingue du point de vue donc du conservatisme d'une gauche qui voudrait maintenir la France en l'état? En tout cas, dans les critiques d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de distinguo.
Non, il n'y a pas de distinguo parce qu'en fait, le mot conservateur en France, depuis plus d'un siècle, si vous voulez, a une connotation extrêmement péjorative. Et c'est évident dans ce sens-là, strictement péjoratif et caricatural, que Macron utilise le mot conservateur, c'est-à-dire l'idée que les conservateurs, c'est ceux qui ne veulent pas bouger, c'est ceux qui refusent de voir le réel. Alors qu'au contraire, la pensée conservatrice se veut une pensée du réalisme, du réel, du refus de l'abstraction, de l'incarnation. Et donc voilà, lorsque Macron, effectivement, utilise ce mot, c'est bien dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que la gauche en question souhaite... dans la lignée de Barrès ou du général de Gaulle, de maintenir les valeurs et les thématiques de la France éternelle ou des racines chrétiennes de l'Europe. C'est simplement que, pour Macron, c'est une gauche frileuse, une gauche immobile, une gauche paralytique, en quelque sorte, à laquelle il veut opposer sa façon à lui de faire de la politique.
Et alors, comment classeriez-vous le Front National dans cette perspective-là, si vous réussissez donc aujourd'hui à vous y retrouver dans le Front National avec là aussi les problèmes, les questions qui traversent aujourd'hui ce parti, Frédéric Rouvillois?
Écoutez, le Front National est dans une position effectivement un peu compliquée par rapport à tout cela, parce que il est bien évident que dans le Front National et dans la sociologie de ses électeurs, mais aussi de ses cadres, il y a d'un côté, un certain nombre une partie sans doute très importante qui est effectivement conservatrice au sens idéologique du terme, et donc dans un rapport de quasi-identité, au fond, avec les thématiques mises en avant par Laurent Wauquiez et rappelées hier soir dans son discours d'investiture. Mais à côté de ça, il y a évidemment d'autres segments qui se situent un petit peu à l'opposé. Bon, c'est des segments qui étaient effectivement essentiellement incarnés par Philippot jusqu'à il y a peu, mais qui demeurent à certains égards. Et voilà, l'une des vraies questions, évidemment, ce sera ça. Ce sera comment ce conservatisme de Les Républicains va-t-il se combiner, se marier, se dissocier de la partie conservatrice triste du Front National.
Il y avait un marqueur qui était souvent invoqué pour être utilisé comme un marqueur du conservatisme, c'était par exemple le refus du mariage pour tous, et pourtant Laurent Wauquiez semble ne pas vouloir abroger le mariage pour tous, sauf si, et j'ai mal compris son programme, Frédéric Rouvillois.
Alors effectivement, Laurent Wauquiez a été malgré tout, si vous voulez, l'un des rares hommes politiques de la droite modérée, notamment à être très présent lors des manifs pour tous, hein, qui ont été là encore l'un des marqueurs et l'un des moments au fond de remise en avant de la thématique conservatrice en France. Est-ce que maintenant il semblerait qu'effectivement il est un petit peu mis de l'eau dans son vin de ce point de vue-là? Bon, c'est un homme politique, hein, donc on verra bien ce qui se passe. Et voilà, le conservateur, c'est aussi sa faiblesse, et parfois un homme prudent, et même parfois trop prudent.
Frédéric Rouvillois, votre dictionnaire du conservatisme est publié aux éditions du CERF. On vous retrouve aux environs de 8h20, où on va continuer à évoquer cette victoire de Laurent Wauquiez, donc, qui a pris la tête du parti Les Républicains. Vous serez rejoint par l'essayiste et la journaliste Elisabeth Lévy, puisqu'il y a une dimension conservatrice, une dimension identitaire également dans le vote pour Laurent Wauquiez. Nous en parlerons dans une vingtaine de minutes.